Chapitre 32. On s'en revint à l'abbaye au commencement de juin, et se retrouvant au pays, Vixen respira plus librement. Après cet exil pourtant si court, comme la nature lui paraissait plus belle, comme elle trouvait à toute chose un regain de charme, de tendresse. Elle s'était contenue pendant la season. Maintenant, c'était la délivrance. Aussi, avec quelle joie elle se laissa aller aux douceurs des beaux jours d'été. Du matin au soir, elle était dans la campagne, trottait à pied ou à cheval, prenant un croquis ou lisant un roman dans quelque coin solitaire du bois, avec Argus comme compagnon et gardien. C'était une existence sans but, mais il semblait à Violette que la vie n'eût rien de mieux à lui offrir. Ni sa mère, ni le capitaine Winstanley n'entravaient sa liberté. Le capitaine avait ses amusements et ses occupations, et sa femme était absorbée par des futilités qui ne lui laissaient pas le loisir de s'inquiéter de sa fille. Du moment que Violette se montrait fraîche et jolie au déjeuner du matin, bien mise pour le dîner, Mrs. Winstanley pensait que tout allait bien, ou du moins aussi bien que possible, avec une fille assez sotte pour refuser un homme riche et noble. Violette vivait donc à sa guise. Elle paraissait avoir pris goût à la solitude, évitant même ses anciens amis, les Scobell, qui s'étaient rendus odieux à ses yeux par leur entêtement à se faire les champions de Lord Mallow. La saison de Londres était dans tout son éclat quand Mrs. Winstanley rentra dans le Hampshire. Les Dovedale devaient rester à Kensington avec M. Vaudrey jusqu'au commencement de juillet. Roderick avait un logement dans Highbury Street, et il avait pris un genre citadin qui, dans l'esprit de Vixen, le rendait exécrable. Je ne puis vous dire combien je vous trouve affreux avec un chapeau de haute forme et des gants gris-perles, lui avait-elle dit un jour qu'elle l'avait rencontré dans Clarges Street. Je me crois plus naturel en costume de chasse, avait-il répondu gaiement. Je suis né pour cela. Quant à mon tuyau de poêle, vous ne pouvez pas le détester plus que moi. Et les gants, je les ai toujours jugés aussi ridicules que les cheveux poudrés ou les perruques à queue. Il y avait près de 15 jours que Vixen parcourait ses coins de bois favoris, lorsqu'un beau matin, par un temps exceptionnellement favorable, elle fit seller Arion immédiatement après le déjeuner et partit à cheval pour une de ses longues promenades. Bates l'accompagnait pour lui venir en aide à l'occasion. Mrs. Winstanley était intraitable sur ce point. Vixen pouvait aller à cheval partout où bon lui semblait, puisqu'elle raffolait de ses chevauchées à travers la forêt, mais elle devait se faire accompagner par un groom. Cette tâche plaisait au vieux Bates. Il adorait sa maîtresse et avait passé en selle la plus grande partie de sa vie. Rien ne lui était plus agréable que de trotter au soleil sur un des chevaux du capitaine, n'ayant d'autre occupation parfois que de chasser une mouche importune ou d'ouvrir d'un coup de pommeau de sa cravache la barrière d'une plantation. Ce matin-là, Vixen était songeuse et Arion paresseux. Elle le laissait aller d'un pas tranquille sous les hêtres de Greatham Wood et dans les plantations du nouveau parc. Les petits ruisseaux brillaient au soleil. Au loin, un pêcheur jetait sa ligne, étouffant de sa seule personne la solitude du paysage. Une tranquillité parfaite régnait de tous côtés. Vixen était perdue dans ses pensées, Bates rêvait, lorsque le sabot d'un cheval se fit tout à coup entendre près d'Arion, et une voix d'homme rompit le silence. « Plus de chapeau de soie pour cette année, et me voilà redevenu mon maître !» disait la voix. Puis une main se posa sur le gant de Vixen, dont les doigts délicats furent serrés par une chaleureuse étreinte. « Depuis quand êtes-vous donc revenu ?» demanda-t-elle après avoir répondu au bonjour amical qui lui était adressé. « Depuis cette nuit. Et la duchesse est-elle revenue à Ashbourne avec ses gens ?»« Pas si bête. La duchesse et sa fille ont trop d'engagements pour le mois prochain. Déjeuner, partie de campagne, concerts, conférences, etc., etc. En un mot, tous les divertissements laborieux que le génie de l'homme a inventés. Un de nos sages modernes a dit que la vie serait tolérable si l'on en supprimait les amusements. Je suis de son avis, les fêtes à la mode me mettent hors de moi. Aussi ai-je franchement déclaré à Mabel que je n'en pouvais plus et que j'étais excédé de plaisir, et que d'ailleurs j'avais affaire à ma ferme. Le cher vieux duc a immédiatement abondé dans mon sens et m'a donné toutes sortes de recommandations pour son régisseur. « Êtes-vous réellement libre de faire ce que vous voudrez pendant un mois ?» demanda-t-elle naïvement. « Pauvre Rory, comme vous devez être content !»« Ma liberté ira encore plus loin que cela. Je suis mon maître jusqu'au milieu du mois d'août, époque à laquelle je dois aller en Écosse. Le duc ira ensuite, je crois, à Bade. Il ne pourrait vivre sans faire tous les ans une saison thermale en Allemagne. » Après cela viendra probablement le mariage, je présume. Malgré sa répugnance à aborder ce sujet, Vixen se croyait obligée d'en dire un mot. Elle tenait à montrer à Rory qu'elle reconnaissait sa situation de fiancée. « Je suppose, » répondit Rory. « Il faut bien qu'un homme se marie, le plus tôt et le mieux. Entre cousins et cousines, il y a toujours un peu de prosaïsme. Nous ne sommes pressés ni l'un ni l'autre. » Mabel a, du reste, tant d'occupations, son grec, ses fleurs. Elle est très instruite. Elle est très instruite et bonne, répondit loyalement Rory, et je suis très fier d'elle. Il lui semblait qu'il était sur le bord d'un précipice et que toute son attention était nécessaire pour ne pas y tomber. On ne parla plus de Lady Mabel. Ils marchaient à côté l'un de l'autre, comme Lancelot et la belle Guenièvre. À travers la nature souriante, ne pensant pas plus à Lady Mabel que cela au roi Arthur. Ce fut la première d'une longue série de promenades pendant cet admirable mois de juin. Vixen et Rory se rencontraient toujours dans ces bois épais où les branches frôlaient incessamment la toque coquette de la jeune fille, où, même en plein midi, la lumière s'estompait doucement, obscurcie par un dôme de verdure. Et où le bruissement des insectes forestiers rompait seul le silence des choses. Comment ne pas nous rencontrer souvent, pensait Vixen, alors que nous nous promenons constamment dans la forêt. C'est inévitable. Si nombreux qu'ils soient, les chemins se croisent toujours quelque part, et quoi de plus naturel que de voir Rory au premier tournant de route? Ils ne savaient jamais où ils se rencontreraient, ils ne se le disaient pas, ou du moins ils n'en avaient pas conscience, mais ils se rencontraient toujours. C'était une sorte de fatalité, ni Rory ni Vixen ne paraissaient surpris de la persistance du hasard. Ils étaient toujours contents de se voir et avaient une infinité de choses à se dire. « Je veux être pendu si je me doute de ce que notre jeune maîtresse et Monsieur Vaudrey peuvent avoir à se dire », disait l'honnête Bates à l'office en buvant son thé. Mais leur langue ne cesse d'être en mouvement. Quelquefois, Miss Tempest et M. Vaudrey allaient ensemble au chenil et passaient une heure avec les chiens, tandis que leurs chevaux se reposaient, attachés aux barreaux de la grille. Bates attendait patiemment, mâchant un brin d'herbe ou tourmentant son inséparable cravache. Il accompagnait toujours sa maîtresse avec des airs de dragon sévère rébarbatif, bon diable au fond et pas gênant. Vixen et Roderick auraient eu envie de se sauver, ils ne se seraient certes pas mis en travers. Il eût mieux aimé fuir avec eux. Les rigueurs du nouveau régime de l'abbaye n'avaient aucun charme pour lui. Chacun sait ce qu'il advient de Lancelot et de Guenièvre après leur fameuse promenade à cheval. Et qu'allait-il advenir de nos deux jeunes gens qui, tous les jours, s'abandonnaient au charme des mêmes rencontres? Qui s'attardaient dans la forêt sous prétexte d'en admirer les plus beaux sites, qui avaient les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes enthousiasmes, les mêmes antipathies. Ni l'un ni l'autre n'osaient se le demander. Ils étaient heureux sans réflexion, et prenaient le bonheur qui leur venait sans songer à soulever le voile de l'avenir. Ils savaient bien que ce bonheur si complet, si profond, ne durerait pas plus longtemps que les beaux jours de l'été. Un rêve aussi court qu'un dimanche d'écolier. Quel bien y a-t-il à être aussi heureux pour n'en être que plus malheureux ensuite? Une jeune fille un peu plus avisée se serait posé cette question. Mais Violette Tempest n'en fit rien. Son cœur était pur comme son regard, et son âme innocente avait gardé toute la fraîcheur de l'enfance. L'idée que Roderick pût manquer à sa parole, et cela pour elle, cette idée n'avait même pas effleuré son esprit. Si Lady Mabel avait été seule en question, avec son grec et ses orchidées, peut-être Violette aurait-elle vu plus clair dans la situation. Mais le devoir filial imposait à Rory la fidélité à sa fiancée. Il en avait fait la promesse devant sa mère à son lit de mort. Et c'était là une promesse solennelle sur laquelle il était impossible de revenir. Un jour que Vixen et Rory ne devaient jamais oublier, un jour dont les tristesses devaient trancher sur le fond des rêves heureux qui l'avaient précédé, les deux amis prolongèrent leur promenade un peu plus tard que de coutume. Le temps n'avait jamais été plus exquis depuis leur première rencontre. Un ciel sans nuages, un léger vent d'ouest qui leur rafraîchissait les joues, tout en inclinant faiblement les verts panaches des hautes fougères dont leur route était bordée. La terre exhalait ses parfums les plus subtils sous le rayonnement du soleil. Au loin, collines et vallées avaient quelque chose d'alpestre. Violette et son compagnon ne pouvaient se lasser d'admirer le splendide panorama qui se déroulait devant eux. Vixen retenait son cheval, pris d'une folle envie de partir à fond de train. « Cet Arion, disait-elle, je ne sais ce qu'il a. On le croirait atteint d'un accès de feuille, comme disent les Écossais. » « Dites-moi donc ce que cela signifie, » demanda Rory, qui avait quelque analogie avec la jeune lady rendue célèbre par Sydney Smith. On eût fait un gros livre de ce qu'il ignorait. « Ce que cela signifie, mais je me figure qu'à un certain moment de la vie, et précisément à la veille d'un grand changement, on est en proie à une sorte de gaieté frénétique et sauvage. » Parfois, un homme qui est sur le point de mourir s'abandonne à une joie insensée à laquelle ses amis ne comprennent rien. N'avez-vous pas remarqué cette particularité dans toutes les histoires de suicide? La veille de sa mort, le suicidé est généralement d'une humeur entraînante qui fait illusion à tous ceux qui l'entourent. Et quand ils apprennent la nouvelle, ils n'en reviennent pas. « Vous me faites frémir, » dit Rory. « Et moi qui me sens extraordinairement gai. » Pourvu que ce ne soit pas le feuille des Écossais. C'est le beau temps, le ciel bleu qui nous rend si heureux, soupira Violette, devenue tout à coup sérieuse. Ce n'est qu'un bonheur extérieur, voilà tout. Peut-être, mais ce n'en est pas moins du bonheur. Ils allèrent ce jour-là très loin, et le soleil était bien bas à l'ouest quand Vixen se sépara de son cavalier pour rentrer à l'abbaye. Elle comprenait qu'elle avait fait un peu trop durer sa promenade. Le pauvre Bates avait dû se passer de dîner, et ses bâillements prouvaient que son estomac avait horreur du vide. Rory et elle pouvaient vivre d'air et de soleil, mais Bates, dont les idées étaient plus prosaïques, avait besoin de réconfortants plus substantiels. Et pour lui, cette belle journée n'avait été qu'une journée de souffrance et de privation. Violette était rentrée d'habitude et habillée pour le thé de l'après-midi. Elle devait écouter les récriminations de Conrad sur toute chose, aussi bien que les bavardages de sa mère sur les révolutions de la mode, d'après les pronostics de Théodore. Car la mode était menacée d'une crise auprès de laquelle les crises ministérielles, périodiques en France, n'étaient que des incidences en conséquence. Manquer à ce thé était assurément une infraction à ses devoirs de fille. Violette s'attendait bien à de douces remontrances aussi ennuyeuses que la pluie. Elle était en retard, horriblement en retard. La cloche se fit entendre lorsqu'elle entra dans l'écurie. Ne voulant pas se montrer sous le porche, de peur que sa mère et le capitaine ne l'aperçussent au moment peut-être où il critiquait sa conduite, elle monta vivement à son cabinet de toilette, se plongea la figure dans l'eau fraîche, dénoua ses cheveux ébouriffés, natta ses longues tresses et revêtit une délicieuse toilette en mousseline garnie de rubans, puis descendit, toute souriante, au salon. Mrs. Winstanley était assise devant une fenêtre ouverte. tandis que du dehors, le capitaine lui parlait à voix basse et d'un ton confidentiel. Il avait cet air sombre que Vixen connaissait déjà et qui lui faisait horreur. Sa femme paraissait troublée et gênée. Vixen, malgré son intention d'aller droit à sa mère pour s'excuser, recula involontairement. À ce moment, la cloche du dîner sonna. Le capitaine vint offrir le bras à sa femme et ils passèrent devant Vixen sans lui adresser la parole. Elle les suivit dans la salle à manger, se demandant ce qui allait arriver. D'abord, le silence. Puis Mrs. Winstanley commença quelques petites remarques insignifiantes sur diverses choses. Violette répondit par devoir. Mais le capitaine garda le silence le plus obstiné. Pas un mot ne fut dit sur la longue promenade de Violette. Il lui parut inutile de s'excuser, puisque sa mère ne se plaignait pas. Cependant, elle avait une vague appréhension, elle sentait venir l'orage. « Il va peut-être vendre à Rion, » pensait-elle, et c'est pour cela que la pauvre bête était si nerveuse. Alors, intérieurement, elle se prépara à la lutte. « Je n'endurerai pas cela. Je ne me séparerai pas du dernier cadeau de mon père. Je serai riche dans 7 ans si je vis jusque-là. Je ferai comme les jeunes prodigues, je m'adresserai à quelque usurier. Je ne serai pas l'esclave du capitaine Winstanley. Il en a assez d'une, pauvre mère, pauvre chère mère. Elle paraît toujours vivre dans la crainte. » Pauvre mère, ce sera un mauvais jour pour elle que celui où les bijoux et les robes ne la rendront plus heureuse. Ce fut un triste dîner. Lorsqu'ils n'étaient que 3, le dîner n'était jamais bien gai, mais ce jour-là, il fut d'une monotonie inaccoutumée. « J'ai envie d'aller m'asseoir au jardin, Conrad, » dit enfin Mrs. Winstanley. « Il fait vraiment trop chaud dans la maison. Allez, ma chère amie. « Je vais fumer un cigare sur la pelouse. »« Vous ne pouvez pas venir tout de suite, mon ami ?»« J'ai une petite affaire à terminer, ce ne sera pas long. » Mrs. Winstanley lui envoya un baiser amical et sortit, suivie de Violette. « Violette, » dit-elle quand elles furent dehors, « pourquoi êtes-vous restée si longtemps absente ? Conrad est fort en colère !» « Votre mari est en colère parce que je me suis promenée un peu plus tard que de coutume, chère mère. C'est absurde. Je regrette de n'avoir pas été rentrée pour vous servir votre thé, et je vous fais sincèrement mes excuses. Mais qu'est-ce que cela peut faire au capitaine Winstanley ?»« Ma chère enfant, quand comprendrez-vous que Conrad remplace votre père ?»« Jamais, maman, car cela n'est pas. » Dieu m'a donné un père, je l'ai aimé et honoré de tout mon cœur. Aucun sacrifice ne m'eût paru impossible avec lui. Mais je n'obéirai jamais à un autre. Je n'ai aucun devoir à remplir envers le capitaine Winstanley. Quelle méchante fille vous faites! Votre opiniâtreté me rend bien malheureuse. Ma chère mère, comment suis-je un obstacle à votre bonheur? Vous menez la vie qu'il vous plaît, et j'en fais autant. Est-ce un crime que d'être resté dehors un peu plus tard que de coutume ? Un crime, c'est bien pis, c'est une inconvenance. Violette rougit et se tourna indignée vers sa mère. Que voulez-vous dire, maman ? Si ces jours-ci, vous vous étiez promenée seule dans la forêt, c'eût été une excentricité. On connaît votre habitude de passer la moitié de votre vie à cheval, ce qui a toujours été un chagrin pour moi. Mais vous n'étiez pas seule. « Non, maman, je n'étais pas seul. J'avais avec moi mon vieux camarade, un des rares amis qui s'intéressent à moi. »« Vous étiez avec Roderick Vaudrey, le futur mari de Lady Mabel Ashbourne. »« Pourquoi me rappelez-vous ces fiançailles, maman ? Pensez-vous que Roderick et moi, nous les ayons oubliées ? Ne peut-il être mon ami et le mari de Lady Mabel ? Dois-je oublier que nous avons joué ensemble étant enfants ? » et que nous nous sommes aimés comme frères et sœurs ? Est-ce que tout cela ne compte plus parce qu'il est fiancé à Lady Mabel Ashbourne ? Violette, vous devez savoir que ces mots de frères et sœurs n'ont pas le sens commun. Supposez que j'ai dit que le capitaine et moi, nous étions comme frères et sœurs. Qu'aurait pensé le monde ? Qu'auriez-vous pensé vous-même ? C'est différent, répondit Vixen. Vous ne vous étiez pas connu enfant. Vous ne l'auriez pas pu, du reste, car à l'époque où il est né, vous n'étiez déjà plus une enfant. Il faut mettre un terme à ces promenades avec Roderick. Tout le monde en cause dans le voisinage. Quel tout le monde ? Le colonel Carteret, pour commencer. C'est son habitude de calomnier tout le monde. C'est sa seule ressource intellectuelle. Chère maman, soyez douce et bonne, et ne vous faites pas l'interprète des méchancetés du capitaine Winstanley. Je vous en prie, laissez-moi ma liberté. Je ne suis pas très heureuse. Vous pouvez bien au moins me laisser libre. » Sur ces mots, Violette quitta sa mère. Elles étaient arrivées à la pelouse devant les fenêtres du salon. Mrs. Winstanley se laissa tomber dans un fauteuil, forme chaise à porteur, qu'un ami lui avait envoyé de Trouville. Et Violette se dirigea vers les écuries pour voir si Arion n'était pas trop fatigué de sa longue promenade. Les chevaux avaient été pansés pour la nuit, et la cour de l'écurie était vide. Le fidèle Bates n'y était pas, lui qu'on trouvait toujours là fumant sa pipe sur un banc de pierre près de la pompe. Vixen entra dans le box d'Arion. Le bel animal mangeait tranquillement son avoine, piétinant son lit de paille fraîche, ses jambes fines soigneusement entourées de leurs genouillères. Il accueillit sa maîtresse par ses hennissements les plus affectueux, daigna permettre qu'elle lui offrît quelques grains de premier choix et lui lécha la main en témoignage de gratitude. « Je ne crois pas que cette longue course vous ait fait grand mal, vieux gars, » dit-elle en lui caressant les naseaux, « et les regards sombres du capitaine ne vous inquiétaient guère, n'est-il pas vrai ?» En sortant de l'écurie, elle aperçut Bates qui traversait la cour, s'essuyant les yeux du revers de la manche et hochant la tête avec un désespoir évident. Vixen courut à lui, les joues empourprées. Elle devinait un malheur. Le capitaine avait laissé tomber sa colère sur la tête grise du pauvre homme. « Qu'y a-t-il, Bates ?» « Je suis venu enfant dans cette maison, miss. J'y ai grandi, j'y suis devenu un homme. Il y aurait 40 ans à la Saint-Michel, et jamais je n'ai fait le moindre tort à mon maître. J'étais garçon d'écurie du temps de votre grand-père, miss, vous le savez, et je me rappelle votre père alors qu'il était le plus beau garçon à 50 miles à la ronde. J'ai aimé tous les vôtres, et vous mieux que mes parents, et aujourd'hui que je suis vieux, je me vois forcé d'aller gagner mon pain chez des étrangers. » C'est cruel. Les grands êtres de la forêt ne vivraient pas si on les transportait dans une autre propriété. Mais ils n'ont pas de cœur, les arbres, et j'en ai un pour souffrir encore plus cruellement qu'eux. J'en ai un et on le brise. Je ne vous comprends pas, Bates, dit Vixen, qui devinait sous ce flot de paroles une partie de la vérité. Voyons, ne pleurez pas. Que voulez-vous dire? Que ma mère vous a renvoyé? « Non, n'est-ce pas? C'est impossible. »« Ce n'est pas votre mère, miss, la bonne dame. Elle n'aurait pas voulu chasser le serviteur du vieux baronnet, celui qui scellait ses chevaux et l'accompagnait par tous les temps. Non, miss Violette, c'est le capitaine Winstanley qui m'a congédié. Vous savez bien qu'il est le maître ici maintenant. »« Mais pour quelle raison? Que vous reproche-t-il ? » « Ah, miss, le plus dur de tout, il me renvoie sur l'heure et sans certificat. N'est-ce pas que c'est affreux? Avoir vécu 40 ans dans la même maison et partir sans certificat, c'est un coup fatal pour un vieillard. »« Pourquoi ne me dites-vous pas la raison, Bates? Le capitaine Winstanley doit vous en avoir donné une. »« Oui, miss, mais je ne vous la dirai pas. »« Pourquoi pas au nom du ciel ?» « Parce que c'est une insulte qui vous est faite, Miss Violette. Et je n'insulterai jamais la petite fille de mon vieux maître. Si je ne vous aimais pas pour vous-même, je vous aime beaucoup, Miss. Excusez la liberté que je prends, mais je ne puis faire autrement que de vous aimer pour le souvenir de votre grand-père. Il fut mon premier maître et un bon maître. Il m'a donné mes premières bottes à revers, Miss. Je me rappelle ce jour-là. Étais-je fier avec mes bottes ?» Bates souriait, ses yeux pétillaient au souvenir de ses bottes, ses yeux reprenaient une vivacité juvénile. « Bates, s'écria Vixen avec autorité, je veux connaître la raison pour laquelle le capitaine vous renvoie. Il ne m'a rien dit de positif, miss, et je ne puis répéter. Mais moi, je le veux, je vous ordonne de me le dire. Rappelez-vous que vous êtes à moi, à mon service. Vous avez toujours été un serviteur fidèle, et je suis certaine que pour la dernière fois, vous ne me désobéirez pas. J'insiste pour connaître le motif de votre renvoi. Si insultantes qu'aient pu être ces paroles, elles ne me surprendront pas et ne me blesseront nullement. Il n'y a pas d'amitié à rompre entre lui et moi, tout le monde le sait. Ne craignez pas de me faire de la peine, Bates. Rien de ce que peut dire le capitaine ne doit me toucher. Je le méprise trop pour cela. J'en suis bien aise, miss. Méprisez-le. Vous ne le mépriserez jamais comme il le mérite. Eh bien, Bates, qu'y a-t-il ? Il dit, miss, que j'étais une vieille bête ou un vieux coquin. Il ne savait trop lequel des deux. J'ai servi d'intermédiaire entre vous et M. Vaudrey, vous encourageant à rencontrer ce jeune homme dans vos promenades, sans jamais prévenir votre beau-père de ce qui se faisait à son insu. Il a dit que c'était honteux que vous étiez le sujet de tous les cancans du comté, et j'étais un être indigne en vous aidant à vous déshonorer. J'étais ébahi, je l'ai interrompu, je crois. Alors il s'est retourné vivement vers moi et m'a dit de quitter la maison ce soir même, d'emporter tout ce qui m'appartient et de ne jamais lui demander de certificat. Puis il me compta mes gages jusqu'au dernier sou afin de bien me montrer qu'il savait régler les affaires. Mais je suis sorti en le regardant bien en face et en laissant la monnaie sur la table. Grâce à Dieu, je ne suis pas un mendiant. J'avais une bonne place et j'ai fait quelques économies. Je ne m'abaisserai pas à prendre ces sales sous. Et vous partez ce soir, Bates ? S'écria Vixen interdite. Elle n'en revenait pas. Peu lui importait que le capitaine eût parlé d'elle et de Rory en termes insultants. Elle le méprisait vraiment trop pour être blessée de son insolence. Mais renvoyer le vieux serviteur de son père, ce brave vieux qui avait grandi et vieilli sous le toit de ses ancêtres. Voir ce fidèle serviteur chassé par un aventurier, par un misérable capable de toutes les bassesses, c'en était trop. Elle se contint assez pour paraître calme devant Bates. Mais sa figure était blême, ses grands yeux étincelaient de colère, ses lèvres tremblaient et sa main était crispée. « Cela ne fait rien, Bates, » dit-elle avec une grande douceur. « Je vous aurai trouvé une bonne place avant 10 heures du soir. Faites votre mal et tenez-vous prêt à aller dans 2 heures où je vous dirai d'aller. Mais d'abord, scellez Arion. Mais vous n'allez pas monter à cheval ce soir. Arion a fait une longue journée déjà. Je le sais, mais il peut encore très bien fournir une course. Je viens de le voir. Scellez-le tout de suite et tenez-le prêt dans l'écurie jusqu'à ce que j'arrive. Ne discutez pas, Bates. » Je le montrerai, quand bien même il devrait en crever. « Vous êtes renvoyé sans certificat, n'est-ce pas ? » dit-elle avec un rire amer. « Qu'importe, Bates, je vous en donnerai un et je vous trouverai une place. » Elle partit légère et prompte comme un oiseau. Elle n'était plus là que Bates était encore à la même place, tout abasourdi. Jamais il ne trouverait une meilleure maîtresse. Qu'aurait-il osé lui refuser ? Rien, pas même son sang. Et dire qu'il ne la servirait plus, qu'il ne l'accompagnerait plus dans ses promenades à cheval, qu'il ne la verrait plus trotter et galoper devant lui, si gentille, si adroite. Rien ne lui était plus pénible que cette pensée. Rien dans sa vie ne l'intéressait, en dehors de ces êtres qu'il servait depuis tant d'années. Séparé de cet entourage, il n'avait plus de point d'appui dans l'univers. Il se sentait abandonné, perdu. Il alla prendre la selle de Miss Tempest, sortit Arion de sa stalle, l'étria avec soin, lui fit sa toilette complète, ce qui ne paraissait pas être du goût de l'animal, auquel l'heure paraissait inaccoutumée. Le pauvre Bates fit sa besogne avec plus d'un soupir, et quelques larmes silencieuses coulèrent le long de ses joues. Miss Tempest était bien bonne de lui trouver une autre place. Mais il n'avait pas le cœur à rentrer dans un nouveau service. Il eût préféré louer une chambre dans un des cottages de Beechdale, et y passer le reste de ses jours, afin de voir de là le toit qu'il avait abrité pendant 40 ans. Ses économies l'auraient bien conduit jusque-là. Puis on l'aurait enterré dans ce cimetière qu'il avait traversé tous les dimanches matins pour aller à l'office. Ses parents étaient tous morts ou vivaient au loin. Il ne lui restait plus qu'une nièce, mariée à Romsey, ville des environs, il est vrai, mais qu'il connaissait à peine et qu'il ne voulait pas habiter tant qu'il était loisible de vivre à Beechdale. Il avait à peine fini la toilette d'Arion que Miss Tempest arriva, toute prête à monter à cheval. « Ne ferais-je pas bien de vous accompagner ?» demanda Bates en la mettant en selle. « Non, Bates, vous êtes renvoyé. Vous ne devez pas prendre un des chevaux du capitaine. Il serait capable de vous envoyer en prison pour vol de cheval. »« Vous croyez ?» dit-il en riant nerveusement. « Il en serait bien capable. » »« Mais je lui ai bien répondu, Miss Violette. Cette pensée me consolera toujours. Si vous m'aviez entendu, vous n'auriez pas reconnu le vieux serviteur de votre père. Je crois que Satan faisait marcher ma langue. Les mots venaient si facilement. Ouvrez la grille. Je sors par la pépinière. » Bates ouvrit la grille et Vixen sortit lentement par la pépinière déserte. La soirée était superbe, la lune montrait son brillant croissant au-dessus des arbres. Les derniers reflets du soleil rougissaient encore l'horizon à l'ouest. Des profondeurs des bois s'échappaient des parfums pénétrants. De temps en temps, une chauve-souris traversait l'air, ou bien un lièvre se sauvait effarouché. C'était l'heure où les bois prennent une beauté imposante et fantastique. Il n'aurait pas paru étrange de voir errer des ombres. Elles eussent été en harmonie avec le charme mystique de cette verte solitude. Malgré son indignation, Vixen ne put rester indifférente à la beauté de ce spectacle qui lui était si familier. Tout en allant lentement, de crainte de fatiguer Arion, elle regardait tout émue autour d'elle. Il lui semblait que, de tout ce qu'elle avait connu et aimé, il ne restait plus que cette forêt. La vie ne lui avait pas été clémente. Son excellent père lui avait été enlevé au moment où elle s'élevait à la hauteur de son noble cœur, au moment où elle pouvait apprécier l'immensité de son affection et où elle avait le plus besoin de sa protection. Sa mère était une douce et souriante poupée, à laquelle il était inutile de s'adresser dans un cas sérieux. Le mari de sa mère était un ennemi implacable. Et Rory, l'ami de son enfance, qui aurait pu être tout pour elle, s'était donné à une autre. Elle se sentait tout à fait isolée. « Le charbonnier de Mark H. est moins seul au monde que moi », se disait Vixen tout en traversant la forêt. « Sa journée finie, il va retrouver les siens. Il a sa femme, ses enfants sont chez lui. » Bientôt, elle quitta les chemins sous bois pour prendre la grande route qui mène droit à Briarwood. Et alors, elle mit son cheval au trot, car il faisait déjà sombre, et elle calculait qu'il serait près de 11 heures quand elle rentrerait à l'abbaye, après avoir accompli la tâche qu'elle s'était donnée. Or, à cette heure-là, les portes étaient fermées pour toute la nuit, et le capitaine Winstanley faisait sa ronde d'inspection aussi sévèrement qu'un gardien de prison. Que dirait-on si elle arrivait après la fermeture des portes et la remise des clés à ce sévère geôlier? Enfin, elle arriva à Briarwood, dont la grille hospitalière était ouverte. Elle entra sans donner aucune explication au concierge. Roderick Vaudrey fumait sous le portique. Dès qu'il l'aperçut, il jeta son cigare et vint au-devant d'elle. « Qu'est-il arrivé, Violette ?» Il pensait qu'il avait fallu une calamité véritable pour l'amener chez lui à pareille heure, pâle, en proie à un trouble profond. Ses lèvres tremblaient, et d'abord, elle ne trouva pas un mot pour lui expliquer sa démarche. « Violette, qu'y a-t-il ? Parlez donc » dit-il en gardant sa petite main gantée et en la regardant avec une sympathie anxieuse. « Pas grand-chose peut-être à votre idée, mais beaucoup pour moi. J'en suis encore toute secouée. Je suis venu pour vous demander une faveur. 1000, si vous voulez, et quand elles seront toutes accordées, je serai encore votre obligé. Mais venez vous reposer au salon et permettez-moi de vous offrir une tasse de thé, un verre de vin, une limonade, quelque chose pour vous rafraîchir après cette longue course. Merci, je n'ai besoin de rien. Je ne descendrai pas de cheval. Je n'ai pas un moment à perdre. Il doit être plus de 9 heures déjà, et le capitaine Winstanley ferme la maison à 11 heures. Rory ne lui dit pas qu'il était bien près de 10 heures. D'une voix de stentor, appelant un domestique, il donna ordre qu'on lui amenât à l'instant Blue Peter, tout scellé. « Où est votre groom, Violette ? » demanda-t-il, tout étonné de la voir seule. « Je n'ai plus de groom. C'est précisément cela que je viens vous raconter. Le capitaine renvoie Bates, et cela immédiatement et sans certificat. »« Il renvoie Bates, le fidèle serviteur de votre père ? Mais pourquoi, au nom du ciel ?»« Je préfère ne pas vous le dire. » Le motif qu'il invoque est une insulte pour moi. Je puis vous affirmer que ce n'est pas pour cause de malhonnêteté, de mensonge, d'ivrognerie ou de paresse. Le pauvre vieillard n'a rien à se reprocher. Il est chassé à cause de moi, pour une faute qui m'est imputée, ou plutôt pour une action de moi qu'il plaît au capitaine de condamner. Il est jeté sur le pavé, sans un mot de recommandation, après 40 ans de dévouement à ses maîtres. « Maintenant, Rory, je suis venu vous demander de le prendre à votre service. Il ne fait peut-être pas aussi belle figure qu'un jeune valet, mais il sait se rendre beaucoup plus utile. Il est fidèle, laborieux, honnête, loyal. Il a un talent spécial pour soigner les chevaux malades, et j'ai entendu dire à mon pauvre vieux père qu'il en savait plus long que bien des vétérinaires. Je ne crois pas qu'il vous gênera. » « Cher Rory, continua-t-elle d'un ton caressant, comme un enfant qui veut qu'on lui cède, redevenant un instant la petite fille à laquelle son camarade cédait toujours. « Je vous prie de faire cela pour moi. Vous prendrez Bates, n'est-ce pas ?»« Mais, cher bébé que vous êtes, pour vous faire plaisir, je prendrai tout un régiment de Bates. Ce n'est pas une faveur, cela. » La promesse de Rory avait réveillé sa bonne humeur. Elle sentait qu'après tout, l'amitié c'est quelque chose dans ce monde. La vie n'est donc pas faite que de déceptions. Elle oublia que son vieil ami était fiancé à une autre. Elle ne se le rappelait que quand il n'était pas là. Auprès de Rory, elle oubliait tout. « Je vous suis si reconnaissante, Rory. Je ne puis vous dire de quel fardeau vous soulagez mon cœur. J'étais sûr que vous m'accorderiez cette faveur, et cependant, si vous aviez dit non, quel malheur pour le pauvre Bates. Je pourrais lui faire une pension plus tard, mais pour le moment, je n'ai rien, ou peu s'en faut. Et maintenant, bonne nuit, je me sauve, il faut que je rentre aussi vite que possible. Vous allez partir, mais je vais avec vous. Allons, cria-t-il en se tournant du côté des écuries, et ce Blue Peter, est-il scellé ? « Pourquoi m'accompagner ? C'est inutile. Je connais la forêt et je trouverai bien mon chemin. »« Je n'en doute pas, mais je vous accompagne quand même. » Un groom amena Blue Peter. C'était un cheval vigoureux, mais des moins élégants, dont Rory se servait pour les courses imprévues et fatigantes, et surtout pour la nuit. Rory sauta en selle, puis, se mettant à côté de Violette, ils partirent ensemble. Ils marchèrent en silence pendant assez longtemps. Violette avait rarement vu son compagnon aussi songeur. La nuit était superbe, les étoiles brillaient au ciel en nombre infini, et le silence n'était interrompu que par la chute de quelques feuilles. « Quelle brute que ce Winstanley !» dit enfin Rory en arrivant au bas de la colline, comme s'il eût mis tout ce temps-là pour se faire une opinion sur le beau-père de Violette. « Je crains bien qu'il ne vous rende la vie malheureuse. »« Il ne me la rend pas, en effet, très heureuse. Depuis le mariage de maman, je ne me suis jamais attendu au bonheur, mais j'aurais pu au moins avoir la paix. Le capitaine ne l'a pas voulu. »« C'est un misérable, et je voudrais pouvoir le tuer, » dit Rory d'un ton vindicatif. « Pauvre petite vixaine. Oui, laissez-moi vous appeler par ce gentil surnom. » « Pensez que vous êtes malheureuse, vous que je me rappelle si gaie, si contente de vivre, vous qui étiez née pour le bonheur. « Mais vous n'êtes pas toujours malheureuse, ma chérie, » dit-il en se penchant vers elle pour lui parler de plus près et plus bas, de peur que les oiseaux endormis ne puissent l'entendre et le trahir. « Vous étiez heureuse, Nous étions heureux ce matin. » Il avait posé sa main sur la sienne. Blue Peter n'avait plus besoin d'être conduit. Il venait justement de quitter la route pour rentrer dans une longue avenue tracée à travers une plantation nouvelle. « Oui, » répondit-elle naïvement, involontairement, avec un sanglot étouffé. « Je suis toujours heureuse avec vous. Vous êtes tout ce qui me reste de mes jours de bonheur. » « Ah ! » s'écria-t-il, « soyez donc heureuse pour toujours alors, ma chère Violette aimée. » Et de son bras, il lui entourait la taille et se penchait sur elle de si près qu'il avait la tête presque sur son épaule. Leurs chevaux marchaient au pas, serrés l'un contre l'autre, et Blue Peter ne semblait nullement déconcerté par la singulière attitude de son cavalier. « Mon amour, » continuait Rory, « si votre bonheur dépend de si peu de choses, prenez-le et gardez-le toujours. » Et de ses lèvres, il effleurait la joue de la jeune fille qui pâlissait. Et de son bras passé autour de la taille, il sentait battre le cœur de Vixen. « Je romprai le lien qui m'enchaîne. Je serai à vous, rien qu'à vous. Vrai, je n'ai jamais aimé que vous. Et je vous ai toujours aimé. Et je ne savais pas moi-même à quel point je vous aimais. Non, cher bien-aimé, je ne le sais que depuis ces derniers jours d'été que nous avons vécu ensemble, seuls, et l'on ne peut plus heureux dans cette forêt qui est notre pays natal. Ma Violette, dès demain, je romprai avec Mabel. Nous n'avons jamais été faits l'un pour l'autre, elle et moi. Vous et moi, oui, nous avons grandi ensemble. Pour moi, c'est ma seconde nature de vous aimer. Pourquoi serions-nous séparés? Pourquoi m'imposerais-je une affreuse comédie, jouant l'amour auprès de Mabel et l'amitié auprès de vous? Double hypocrisie et double supplice! Il n'y a aucune raison, Violette, aucune, excepté... Excepté votre promesse à votre mère mourante, répliqua Violette, en s'échappant de son bras et en le regardant bien en face, d'un air résolu. Vous ne le ferez pas, quand bien même je serai 10 fois meilleur que je ne le suis. Non, Rory, il faut faire votre devoir et tenir votre promesse. Vous épouserez Lady Mabel et vous serez heureux après. Votre bonheur est là. On est toujours heureux quand on fait son devoir. Je n'en crois rien, s'écria Rory avec emportement. Et puis, feindre un amour qu'on n'éprouve pas, est-ce là le devoir ? Je vous aime, je vous ai toujours aimé. Mais ma mère m'a fatigué, m'a étourdi en me vantant les perfections de Mabel, en essayant de vous amoindrir dans mon estime. Puis, quand elle fut mourante, il me parut cruel de m'opposer à ses désirs et de lui refuser quelque chose, même aux dépens de mon bonheur. J'ai été assez faible pour me laisser entraîner. Mais il n'est pas trop tard, Violette. J'écrirai demain à Mabel et je lui dirai la vérité pour la première fois de ma vie. « Vous ne ferez rien de semblable, » reprit Violette avec résolution. « Croyez-vous donc que je n'ai aucune fierté, aucun sentiment d'honneur ? Comment ? On pourra supposer que, sachant votre engagement envers votre cousine, je vous ai attiré pour vous éloigner d'elle ? On n'y manquera pas si, après nous avoir vus ensemble si souvent, aussi intimes que frères et sœurs, on apprend la rupture de votre mariage avec Lady Mabel. » « Et vous pensez que je laisserai dire cela ? Non, 1000 fois non. Si je souffrais cela, je mériterais les pires injures du mari de ma mère. »« Que vous importe ce que l'on dira et l'opinion de cet aventurier ? La méchanceté aura toujours prise sur nous, quelle que soit notre vie. L'essentiel, c'est que nous soyons heureux. Et je ne puis être heureux qu'avec vous seul, Vixen. Je le sais maintenant. Je n'épouserai jamais Lady Mabel Ashbourne. »« Et vous ne m'épouserez jamais. » répondit Vixen en caressant du bout de sa cravache Arion, qui partit aussitôt d'un train rapide. Blue Peter le suivit aussi vivement. En 1 minute, Rory se trouva à côté de Violette. Il avança la main et la saisit. « Vous voulez dire que vous ne m'aimez pas ? » s'écria-t-il avec colère. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela tout de suite ? Pourquoi m'avez-vous laissé vivre follement dans un paradis chimérique ? « Ce paradis était votre seul ouvrage, » répondit-elle. « Je vous aime un peu pour le passé, parce que mon père vous aimait, parce que vous êtes tout ce qui me reste de mon heureuse enfance. Sans vous, je pourrais envisager le passé comme un rêve, mais je vous vois, je vous entends, et je sais que réellement j'ai été heureuse. Oui, Rory, je vous aime de tout mon cœur, comme je n'ai jamais aimé personne depuis la mort de mon pauvre père. » Leurs chevaux s'étaient remis au pas. « Oui, mon ami, je vous aime trop, et nous devons nous séparer. Je m'étais imaginé que je vous aimais comme un frère, que vous pouviez être le mari de Lady Mabel et mon ami à moi. Mais c'est une illusion irréalisable. Il faut nous séparer, Rory. Cette promenade doit être notre dernière. C'en est fait de notre vieille amitié d'enfance. Je veux faire mon devoir et vous devez faire le vôtre. Jamais je n'épouserai une femme que je n'aime pas. Vous tiendrez votre promesse à votre mère. Vous agirez comme un homme d'honneur doit le faire. Songez donc, Rory, quelle honte de rompre un engagement connu depuis si longtemps. Voyez quelle peine vous feriez à votre oncle et à votre tante. Ils ont été très bons pour moi, soupira Rory. Je souffrirai de leur faire de la peine. Sa conscience lui disait qu'elle avait raison, mais il éprouvait de la colère contre elle à la voir plus sage que lui. L'amour qu'il ressentait, cet amour qui avait sommeillé si longtemps, se révolta contre la raison et il s'écria « Qu'ai-je besoin de m'occuper du duc et de la duchesse? Ils trouveront aisément à marier leur fille. Une héritière comme Mabel n'a qu'à sourire pour qu'un homme tombe à ses pieds. Pourquoi me sacrifierais-je, moi, mon amour, la vérité, ma vie? Quoi, pour m'assurer le domaine d'Ashbourne et pour l'honneur d'être le gendre d'un duc? Me croyez-vous capable d'une pareille vilenie? Non, Rory, mais pour faire honneur à votre parole. Et maintenant, voici le clocher de Lyndhurst. Il faut nous dire adieu. Pas avant que vous soyez arrivé à votre grille. Personne ne doit nous voir. Il faut que j'entre sans bruit jusqu'aux écuries. Ne croyez pas que je sois honteuse de cette promenade nocturne. Mais je veux épargner un tourment à ma mère, et si le capitaine et moi nous discutions sur ce sujet, cela amènerait une querelle. » Roderick Vaudrey saisit Arion par la bride. « Je ne vous laisserai pas partir si facilement, » dit-il avec énergie. « Vixen, je vous ai toujours aimé. Voulez-vous être ma femme ?»« Non. » « Pourquoi disiez-vous que vous m'aimiez ?»« Parce que je ne pouvais pas mentir. Oui, Rory, je vous aime, mais je préfère votre bonheur et le mien que la chance d'un bonheur qui pourrait nous échapper avant que nous ayons pu le saisir. Je sais que votre mère avait une très pauvre opinion de moi. Je voudrais, si les morts savent quelque chose, qu'elle sût qu'elle s'est trompée et que je ne suis pas indigne de votre estime. Vous épouserez Lady Mabel Ashbourne, Rory, et dans 10 ans, alors que nous serons moins jeunes et plus calmes, nous redeviendrons de bons amis. Vous me remercierez alors de vous avoir montré le droit chemin. Lâchez la bride, Rory, il n'y a pas une minute à perdre. J'ai encore à fournir un bon temps de galop. » La route qui lui restait à parcourir n'était sûre que pour ceux-là qui connaissaient bien le pays, car de chaque côté elle était bordée par de dangereux bourbiers. Violette savait son chemin par cœur, et jusque dans les moindres détails. Arion sentait de loin son écurie. Blue Peter allongea ses jambes musculeuses pour le suivre. C'était une course folle sur un terrain sillonné de mares et de flaques d'eau au milieu d'une solitude déserte. Vixen poussa un long soupir quand les chevaux arrivèrent sur la grand-route. « Je crois qu'il va m'arriver un malheur, j'en ai comme un pressentiment. « Les malheurs qui vous arriveront maintenant seront de votre faute, » dit Rory avec rage. « Vous repoussez le bonheur et vous me le refusez. » « Ne soyez pas fâché contre moi, Rory, » répondit-elle très doucement. « Je préfère être malheureuse pour avoir fait mon devoir qu'heureuse pour y manquer. » Arion, qui avait galopé jusque-là, commençait à être fatigué. Il faisait mollement retomber sa tête. Vixen, qui comprenait que le moment était critique, le mit au trot. 10 minutes après, ils étaient arrivés à la loge du gardien des écuries. La porte était fermée et la loge était plongée dans l'obscurité. « Il faut que j'aille à la grande entrée, » dit Vixen. « C'est ennuyeux, car je suis presque sûr d'y rencontrer le capitaine. Mais il est impossible de faire autrement. »« J'y vais avec vous. »« Non, Rory, cela ne vaudrait rien. S'il m'insultait devant vous, j'en serais très mortifié. » »« Et je crois que je l'en corrigerai, » dit Rory. « Je lui infligerai le plus joli coup de cravache qu'il ait jamais reçu de sa vie. » « C'est-à-dire que vous m'amèneriez des ennuis et que vous rendriez ma mère malheureuse. De grâce, Rory, séparons-nous. Bonne nuit et adieu. »« Non, » s'écria Rory. « Demain, je vous attendrai toute la journée au chenil. » Vixen avait franchi la grille. Le concierge l'attendait debout devant sa porte. Roderick respecta son désir et n'entra pas. « Bonne nuit !» lui cria-t-elle en se retournant pour le voir. « Bates ira vous trouver demain matin. » La porte du hall était grande ouverte, et le capitaine, debout sur le seuil, attendait sa belle-fille. Un valet d'écurie prit le cheval, elle en descendit toute seule, jeta les rênes au groom et monta les marches d'un pas ferme, allant droit au capitaine. Quand elle fut entrée, il ferma la porte et la verrouilla avec une certaine ostentation. Elle respira moins librement lorsque cette porte se fut refermée sur elle. Il lui semblait qu'elle était dans une prison. « J'ai quelques mots à vous dire avant que vous montiez, » lui dit sèchement le capitaine. « Dans le salon, s'il vous plaît. »« Comme vous voudrez, » riposta Vixen avec une extrême froideur. Elle était absolument calme. Que pouvait-elle craindre? La vie ne lui laissait plus ni espoir ni crainte. Elle venait d'accomplir le plus grand sacrifice que sa destinée pût lui imposer. Elle avait refusé l'homme qu'elle adorait. Après cela, que lui importaient les mesquines méchancetés de son beau-père? Violette suivit le capitaine Winstanley au salon. Là, il y avait plus d'air, une des fenêtres était ouverte, et les rideaux de guipure étaient légèrement agités par le vent. Une grande lampe à pétrole brûlait sur la table favorite de Mrs. Winstanley. Son livre et sa corbeille à ouvrage s'y trouvaient encore, mais la maîtresse de maison s'était déjà retirée. « Ma mère est montée se coucher, je suppose ?» demanda Vixen. « Elle est montée dans sa chambre, mais je crains qu'elle ne soit trop agitée pour goûter le moindre repos. » « Je ne lui aurais pas permis de vous attendre plus longtemps. »« Est-il vraiment si tard ?» dit la jeune fille, de l'air le plus innocent. Son cœur battait violemment, et elle se sentait de fort méchante humeur. Elle restait debout devant le capitaine, qu'elle regardait d'un air plein de malice, en serrant nerveusement sa cravache. Elle pensait aux paroles de Rory, à ce prodigieux coup de cravache qu'il eût été heureux de lui administrer, et se demandait si le capitaine avait déjà subi l'expérience de ce genre de châtiment. Elle conclut à la négative. Le capitaine était un homme trop astucieux pour s'exposer à être cravaché. Il serait capable de faire tout ce qu'il faudrait pour mériter la cravache, mais s'arrangerait de manière à l'éviter. Il est 11h15. Je ne sais si vous trouvez que ce soit une heure qu'une jeune fille puisse convenablement choisir pour sortir à cheval. Me direz-vous le motif de cette expédition nocturne ? Certainement, vous avez renvoyé Bates d'une place qu'il occupe depuis 40 ans, et je suis sorti pour lui en trouver une autre. Je suis heureuse de dire que j'ai réussi. Ah ! Et quel est le maître chevaleresque qui consent à recevoir le serviteur que je renvoie sans certificat ? Un vieil ami de mon père, M. Vaudrey. J'en étais sûr, reprit le capitaine, et c'est chez M. Vaudrey que vous êtes allé ce soir, si tard, seul. C'est votre faute si j'y suis allé seul. Vous avez pris sur vous de renvoyer mon groom, l'homme qui a sellé mon premier poney, celui à qui mon père a donné mission de m'accompagner, de me protéger. Vous en arriverez bientôt à vendre mon cheval, je le parierai. « Vous en verrez bien d'autres, Miss Tempest, avant que nous en ayons fini ensemble, » répondit le capitaine, pâle de colère. Jamais Vixen ne l'avait vu ainsi. Ses veines se gonflaient sur son front livide, ses yeux prenaient une expression égarée, Il paraissait consumé par une passion plus forte que sa volonté, comme un homme possédé du démon. Violette le regarda étonnée. Ils étaient debout en face l'un de l'autre, séparés seulement par la table et la lampe. « Pourquoi me regardez-vous avec ce sourire de provocation ? » demanda-t-il. « Voulez-vous m'exaspérer ? Vous devez savoir que je vous hais. » « Je le sais, » répondit Vixen, « mais Dieu seul sait pourquoi vous me haïssez. »« Vous n'en connaissez pas la raison ?»« Non. N'en pouvez-vous pas deviner une ?»« Non, à moins que ce ne soit parce que la fortune de mon père m'appartiendra plus tard. Si je vis jusqu'à 25 ans et que par suite votre position ici en sera amoindrie. »« Ce n'est pas la raison, non. » « Je ne suis pas aussi vil que vous le pensez. Ce n'est pas pour cela que je vous hais, Violette. Si vous n'aviez été qu'une bonne bête de fille, tout à son intérieur, une simple provinciale, une lourde paysanne aux traits vulgaires, nous aurions pu vivre en assez bonne intelligence. Je vous aurais rendue obéissante, mais j'aurais pu être bon pour vous. Mais vous êtes la femme pour laquelle j'aurais vendu mon âme, et vous m'avez repoussée avec un insolent mépris. » Avez-vous oublié cette nuit dans le pavillon à Brighton ? Moi, pas. Je ne lève jamais les yeux vers les étoiles sans y penser, et je ne pourrai jamais vous pardonner tant que le souvenir en restera vivant dans mon cœur. Si vous aviez été ma femme, Violette, j'aurais été votre esclave. Vous m'avez forcé de devenir votre beau-père, et je veux être le maître au lieu d'être l'esclave. Je vous rendrai la vie dure pour peu que vous contrecarriez mes projets. Il vous plaît de courir après le fiancé d'une autre femme. J'entends mettre un terme à cette indécente poursuite. Entre vous et votre amant Roderick Vaudrey, vous me trouverez toujours, moi, pour vous séparer. Vos rendez-vous secrets et tout ce manège d'amour clandestin, en voilà assez de tout cela. La conduite que vous menez depuis quelque temps est la honte de votre sexe. « Comment osez-vous dire cela ? » s'écria Vixen, folle de colère. Elle saisit la lampe des deux mains comme si elle eût voulu la lui jeter à la tête. C'était une grande lampe avec un globe sur un support de bronze massif. Un flot de sang monta au cerveau de la jeune fille. Elle ne savait pas elle-même ce qu'elle allait faire, mais tout son être était convulsé par la colère. La chambre tournait devant ses yeux. Le lourd piédestal lui échappa des mains, le globe roula sur le tapis, et aussitôt elle vit un flot de flammes se répandre et courir plus vite que la pensée vers la fenêtre ouverte. Elle n'avait pu ni faire un mouvement, ni prononcer une parole, que déjà la flamme avait grimpé tout le long des rideaux de guipure, plus rapide qu'un oiseau ou un insecte ailé. La large fenêtre n'était qu'un brasier ardent. Vixen et son ennemi semblaient être au milieu d'une atmosphère de feu. Le capitaine Winstanley fut confondu par la soudaineté de la catastrophe. Tandis qu'il restait muet, effaré, Vixen s'élança à travers l'étroit espace que laissaient libres les rideaux enflammés, comme si elle eût plongé dans un gouffre de feu. Il l'entendit qui, de sa voix claire et forte, sonnant comme un clairon dans le silence de la nuit, appelait les gens d'écurie et les jardiniers. Il n'y eut pas un moment de perdu. Les palefreniers se précipitèrent armés de cruches et bientôt arriva le jardinier écossais avec sa lance de jardin qui fit pleuvoir dans le salon plusieurs tonneaux d'eau. Ce ne fut pas sans quelque dommage pour les tapis et les tentures. Mais le puissant jet d'eau eut bientôt raison de la flamme. Au bout de quelques minutes, la fenêtre retomba dans l'obscurité. Et tandis que Vixen de la pelouse contemplait les dégâts qu'elle avait causés, Mrs. Winstanley, pâle, terrifiée, pareille à un revenant dans son long peignoir blanc, se précipitait dans le salon. « Oh, Conrad, qu'est-il arrivé ? » criait-elle, sans savoir où donner de la tête. Ayant à peine assez de présence d'esprit pour reconnaître son mari au milieu du désordre de l'appartement. « Ce qui est arrivé, répondit-il, votre adorable fille a essayé de mettre le feu à la maison, voilà tout. »